Accès libre avec Luc Fortin.
Et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde de Christiane Campagnan qui était dit maître de cette heure où on s'intéresse à la mobilité réduite, aux gens qui la vivent et aux proches et peut-être à ceux et celles qui sont qui mettent du bâton, des bâtons dans les roues. Et oui, c'est un jeu de mots. C'était pas préparé, mais je trouvais que ça fitait. J'espère que vous allez bien. 13 mai aujourd'hui, on va s'intéresser entre autres aux OCR, les fameux Optical Character Recognizer. Je parlais il y a tout juste 2-3 minutes avec Hélène et François du Voice Dream Scanner. Il y a le Seeing AI, il y en a pour téléphone Android. Il y a le projet de loi 17 qui a fait déplacer pas mal de monde vers Québec la semaine dernière à l'Assemblée nationale. On va voir le directeur de la COFAN. Projet de loi 17 là, sur l'industrie du taxi. Il y a peut-être un moyen intéressant et actif d'être patient, devenir patient partenaire. C'est avec ça qu'on commence dans quelques secondes. On va se promener dans Québec, du moins par l'entremise d'un documentaire. Et on va essayer d'écouter de la bonne musique. Monsieur Laliberté, comment allez-vous?
Je vais très bien, Luc, je vais très bien. Et vous, Monsieur Fortin, comment allez-vous?
Je suis grognon aujourd'hui.
Bon, mon petit de 8 mois est grognon, Luc est grognon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce lundi?
Ben moi, je suis moins mature que votre petit grognon, parce que lui, il a sûrement une bonne raison.
Oui, lui, ça doit être les dents,
cet âge-là. Ben c'est ça, il y a une bonne raison, alors que moi, c'est peut-être, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai mes heures de sommeil, j'ai mon petit SK, j'ai...
Bon, c'est le syndrome du Garfield qui est les lundis, c'est ce qu'on comprend.
Peut-être.
Celle-là, ça tombe mal parce qu'on se voit juste le lundi.
C'est vrai. C'est vrai. Là, t'es tellement professionnel que je présume que Vincent Dumay est là. Est-ce qu'on dit Dumay ou Dumaise, monsieur?
On dit Dumais.
Dumaise, ben on va dire Dumaise. Comment allez-vous?
Ça va bien, très bien, et vous-même?
Ouais, vous êtes... Aïe, aïe, aïe. Quel titre? En braille, ouais. Ça fait 4 lignes et demie. Donc, vous êtes co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et vous êtes également co-directeur de la direction collaboration et partenariat patient de l'Université de Montréal. À partir de maintenant, on va dire Vincent.
Excellent.
Ça vous va?
Ça me va parfaitement bien.
Moi, c'est quelque chose, et je vais l'admettre, je ne connaissais pas du tout la dynamique patient-partenaire. Je trouve ça une idée fabuleuse. Maintenant, est-ce que avec les années, puisque ça fait quand même quelques temps là, qu'on travaille ce concept-là, oui. Est-ce qu'on a réussi à amener ce concept-là là où on le souhaitait au départ, selon vous?
Ben, je pense qu'on a, en presque 10 ans, on a énormément progressé. C'est devenu, en fait, derrière la question du patient partenaire, il y a d'abord une reconnaissance que le patient a des savoirs, que ces savoirs ont besoin d'être renforcés, que le patient doit aussi, on doit l'aider à développer des compétences, à être davantage autonome, etc. Donc, il y a toute cette idée d'une meilleure façon d'amener les personnes à être impliquées dans leurs soins. Alors cette partie-là, cet élément-là, je pense, a sensibilisé énormément de milieux de santé, que ce soit au Québec, au Canada ou dans certains autres pays dans le monde. Donc à ce niveau-là, oui, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience que les patients ont des savoirs, sont pas simplement des personnes, des individus passifs qui subissent les soins, mais sont aussi des gens qui, au quotidien, prennent des décisions, se soignent. Et donc mérite à aussi être beaucoup soutenu dans ce processus d'apprentissage et de capacité à prendre soin d'eux-mêmes. Alors ce volet-là a énormément, je pense, a beaucoup évolué à travers le temps.
Oui. Est-ce que, parce qu'il me semble qu'on entend encore des histoires quand même de médecins un peu froids avec des diagnostics, disons, qui tombent sur la vie de quelqu'un sans trop de façon, jusqu'où le patient partenaire peut influencer le système médical?
Alors on est au début d'un changement de culture, parce que pour passer d'une perspective de valoriser les savoirs des patients et puis ça les considérer comme des partenaires par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, même si on a bien démarré, ça reste un changement culturel important qui concerne particulièrement effectivement les professionnels de la santé, peut-être un peu plus des fois les médecins. Donc c'est pour ça que pour bien faire comprendre ce changement-là, ce qu'on a fait par exemple à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, on a 200 à peu près patients formateurs, des patients très expérimentés qui forment nos étudiants en médecine sur les bonnes pratiques en collaboration, en communication, pour s'assurer justement que le jour où ils vont divulguer des diagnostics, ils vont les faire dans les règles de l'art et en toute synchronisation, en tout respect du patient et de son contexte propre. On sait que l'annonce du diagnostic, les impacts d'une mauvaise annonce de diagnostic, c'est catastrophique. Mmh. Alors, on passe beaucoup par l'éducation médicale, par exemple, pour adresser cette question-là et s'assurer au moins que les nouvelles générations aient les bonnes pratiques pour le faire. Et c'est des patients qui leur expliquent. Qui leur explique comment le faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment répondre au contexte spécifique des individus.
Je comprends que vous avez, dans le passé, été patient, ensuite patient partenaire avant de devenir co-directeur d'un paquet d'affaires.
Ouais. Je suis patient. Moi, je suis un hémophile sévère. Okay. Donc je suis dans les soins depuis 48 ans, depuis ma naissance. J'ai été contaminé dans les années 80 par mes produits sanguins, par le VIH et l'hépatite C. Donc, j'étais un militant SIDA pendant des années. Mmh. Donc, moi, j'ai une grande expérience du soin. Donc, moi, ça a été une bataille. Ça a été ma bataille personnelle pour me faire reconnaître aussi comme un patient partenaire et puis pour faire reconnaître mes savoirs et puis rentrer dans des vrais dialogues, discussions avec mes cliniciens pour être sûr qu'on prenne des décisions ensemble. Donc, moi, c'est un processus dans lequel je suis encore aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle ils m'ont embauché, d'ailleurs, à l'Université de Montréal. Co-directeur, je suis le patient co-directeur et mes autres collègues sont des professionnels de la santé.
Ouais. J'ai envie quand même de comprendre un peu comment ça fonctionne entre le parent et le système. Est-ce que ce sont des ateliers? Est-ce que ce sont des tracts ou des livres? Comment l'information se transmet?
Alors, généralement, la formation au niveau clinique.
Oui, puis comment le médecin peut-il profiter de l'expérience du patient partenaire?
Déjà, en commençant par lui poser une question ouverte, vous allez me dire c'est simple, mais simplement déjà en partant de là où le patient en est. Mmh. Généralement, les patients ont beaucoup de savoir. C'est ça qu'on est en train de comprendre. C'est que les gens qui sont malades, ils ont déjà une très bonne... ils acquièrent rapidement une connaissance d'eux-mêmes. Puis ils prennent déjà beaucoup de décisions. Même vous, quand vous avez... je sais pas combien vous avez fait de grippe depuis que vous êtes né, mais vous en avez fait beaucoup. Donc vous avez beaucoup de savoir sur le fait d'avoir une grippe. Donc avant même d'aller voir votre médecin, vous mobilisez un paquet de savoirs. Puis quand vous arrivez voir votre médecin, généralement, c'est que vous avez éliminé un certain nombre de pronostics, vous avez essayé plein de choses, puis là, vous arrivez parce que vous n'avez pas d'autre solution. Ouais. Alors, c'est ces savoirs-là, la première étape, la première chose, c'est très simple, c'est simplement d'être très ouvert à ce que le patient, à l'analyse du patient, ce que la personne amène, et partir de là.
Mais ça, Vincent, ça se fait sous forme de conférences, d'ateliers, de...
Alors, l'apprentissage de ça se fait sous la forme de cours, on sensibilise les cliniciens à ces approches-là, donc on va directement dans les milieux hospitaliers, on s'insère dans des démarches d'amélioration de la qualité, on s'insère dans des curriculums de formation, donc on essaye d'expliquer finalement ces bonnes pratiques de différentes façons, dans différentes plateformes de communication que le système de santé a.
Là, est-ce que... Et comment devient-on patient partenaire? Est-ce qu'on peut appliquer? Est-ce que...
Oui, alors on a un réseau d'à peu près 200 patients très expérimentés à l'Université de Montréal. Si les personnes sont intéressées justement à venir éventuellement contribuer à l'enseignement de nos étudiants en médecine ou à participer à certaines de nos activités justement de communication, de conférences, etc., ils peuvent aller sur le site de la direction collaboration et partenariat patient et puis on va les rencontrer et éventuellement les intégrer dans le réseau. Alors on a énormément d'activités, on participe à beaucoup de cours, on a un curriculum complet de formation qu'on a élaboré et donc il y a de l'espace pour des patients, pour beaucoup d'implications patients effectivement.
Disons, pour les gens qui ont des problèmes cognitifs, c'est important qu'on puisse les entendre, mais bien bon, sûr. Ceux-ci ont peut-être un petit peu de difficulté à se faire entendre. Est-ce qu'une personne proche aidante peut devenir patient partenaire?
Oui, OK. À peu près un tiers de nos, patients sont des proches aidants, donc soit des parents ou des accompagnateurs des adultes qui accompagnent d'autres adultes. Mais bien entendu, mais on a aussi des personnes avec des déficiences, même des déficiences qu'on peut intégrer dans nos, dans nos dispositifs, dans nos cours. On a une variété de problématiques de santé représentées par notre réseau de patients. Donc, et chacun peut amener son enseignement à sa façon, à sa manière. Donc, on essaye quand même de rester aussi représentatif de la population.
Lorsque vous parliez de cours un peu plus tôt, est-ce que c'est la formation de base ou on parle de formation continue? Je pose la question parce que je me demande... OK, parce que... Bon, on sait que les médecins, en tout cas, ils ont une réputation d'être difficiles à convaincre. On n'a qu'à penser aux super infirmières, aux pharmaciens. Ils n'aiment pas laisser un pouce de leur vocation, disons ça comme ça. Alors, je me dis, ils sont peut-être difficiles à convaincre également dans la façon, peut-être, de modifier leur façon de travailler avec le patient.
Alors les médecins ne sont pas forcément faciles à convaincre, mais une fois qu'ils sont convaincus, par exemple, ils avancent très vite. Okay. Alors, donc effectivement, mais en même temps, ils vivent un certain nombre de pressions aujourd'hui, parce que, bon, d'abord d'une, on est dans la maladie chronique, donc il y a de plus en plus de patients qui arrivent, donc des patients, quand je suis atteint de maladie chronique, j'ai pas mal de savoir, donc quand je viens voir mon médecin, je vais pas arriver avec des symptômes, je vais y arriver avec des fois avec même des diagnostics. Donc pour le médecin, c'est un certain défi hein, d'avoir ce type de patient-là. Donc il se questionne aussi beaucoup comment on fait avec ces patients qui ont des savoirs, qui vont sur Internet, etc. Donc eux-mêmes savent bien, voient bien qu'il y a un vrai défi de communication et de collaboration qui est de plus en plus important. Ouais. Eux-mêmes voient bien que, par exemple, on a des taux d'inobservance au traitement extrêmement élevés, c'est-à-dire... Par exemple, dans les maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, on sait qu'à peu près 50 à 80% des personnes ne suivent pas correctement leur médication. Mmh. Mais la raison principale de celle-là, c'est que les plans de soins, les décisions n'ont pas été prises avec les patients, ont été poussées sur les patients. Donc il y a beaucoup de médecins qui vont se dire, écoutez, moi je suis un très bon médecin, j'ai des très bonnes compétences, mais en même temps, quand mon patient quitte mon cabinet, s'il ne prend pas ses médicaments, je vais le revoir, puis ça va être un échec. Mmh. Donc je préfère comprendre comment on travaille ensemble pour m'assurer qu'effectivement, on prenne une décision ensemble qui ait du sens, puis qui va faire en sorte que lui, une fois qu'il va être sorti de mon cabinet, va faire les choses qu'on a décidées. Ouais. Alors, il y a beaucoup de phénomènes en ce moment qui re-questionnent la pratique médicale, et les médecins se re-questionnent sérieusement autour de ça et essayent de trouver des moyens pour justement faire face à ces questions-là.
Par les temps qui courent,
une vraie ouverture.
On parlait de re-questionner la pratique médicale. Bon, par les temps qui courent, on est dans une philosophie où chaque minute est comptée. On parle de Lead et Toyota et tout ça. Ouais. Est-ce que... le partenariat entre, disons, toute cette idée que vous et vos collègues évoquez, est-ce que c'est compatible avec cette approche?
C'est compatible, ça dépend. En fait, le problème aujourd'hui, c'est pas forcément qu'on ait du temps, c'est qu'on a une perspective à très court terme, c'est toujours pareil. Je veux dire, à partir du moment où on a un patient qui a besoin d'informations, il faut lui donner. Si on ne lui donne pas, ce patient-là, on va le retrouver à l'urgence, on va le retrouver dans les suivis et dans les soins ambulatoires, beaucoup trop, etc. Donc c'est vraiment une question d'investir le bon temps au bon moment. Le médecin, il n'est pas tout seul, il a une équipe aussi, c'est pour ça que la collaboration interprofessionnelle est importante, parce que l'accompagnement du patient, c'est le médecin, mais c'est aussi l'infirmière, ça peut être le physio, ça peut être pas mal de monde, donc ce partenariat, il s'inscrit avec un médecin, mais aussi dans une dynamique de soins. Et souvent, le problème, c'est que le médecin va être seul ou juste avec une infirmière. Donc aussi, la collaboration interprofessionnelle est importante dans ce domaine-là. Donc c'est pas vraiment un enjeu, le temps, très honnêtement. Okay. C'est un faux enjeu, en fait. C'est un faux enjeu parce que quand on le regarde d'un peu plus moyen, long terme, on n'investit pas suffisamment de temps à un moment donné, puis derrière, ça va coûter très, très cher.
Je le comprends et vous le comprenez, mais une fois qu'on est dans la routine et que la salle d'attente est pleine, peut-être qu'on l'oublie si on est un professionnel de la santé.
Alors c'est sûr, donc si la performance de nos systèmes hospitaliers, c'est encore une fois la performance de la salle d'attente toute seule ou d'un silo, d'un service,
ouais, ouais.
C'est sûr qu'on va, on va rester attaché à ça, puis les gens vont être obsédés par le temps d'attente dans une salle d'attente, par exemple.
En terminant, il y avait un sommet là, récemment, ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. On a eu les meilleurs parmi les meilleurs du monde à Montréal pendant 12 jours sur cette question du partenariat patient, des Anglais, Suédois, Américains. Puis ça a permis aussi de beaucoup échanger sur ce grand changement de culture qui est en train de s'inscrire partout en ce moment-là. Donc c'était vraiment intéressant de voir ça aller. Ouais.
J'espère en tout cas qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé ou peut-être des ex-professionnels, je ne sais pas trop, mais des gens qui ont vécu la réalité des deux côtés qui sont patients partenaires, oui. Parce que eux ont vraiment, vraiment des richesses à apporter à ce concept-là. Vincent Dumaise, merci beaucoup, beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes co-directeur d'un paquet d'affaires. Lâchez pas et bonne santé.
On va pas lâcher, non, vous savez. Jamais de la vie, on lâchera là-dessus. C'est une trop belle cause. Merci beaucoup à vous. Merci.
Salut. Bon, Jean-Sébastien, t'as fait une erreur. C'est quoi, t'as arrêté à toune?
Non, 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 c'est voulu, c'est comme ça que la chanson se termine. C'est comme la pièce She's So Heavy des Beatles. Là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça coupe sec. C'est l'effet voulu par Steffi Choc.
Okay. Hey, c'est du théâtre. Hein. On a tout planifié ça. On a tout parce que je savais ce qui s'en venait. Mais on est fort, Jean-Sébastien. On devrait aller au Gala des Masques. Sophie Baudet et Steffi Choc. Alexandre Bellemare, bonjour.
Bonjour, Luc. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci. Et toi?
Oui, ça roule.
Je suis un petit peu grognon. Et entre autres, une des raisons, on y reviendra après la demi, parce que je te garde, c'est la mise à jour de l'application de La Presse. Mais avant, j'ai envie de parler de ces différentes applications qui nous permettent de lire grâce à nos téléphones mobiles. Je suis abonné à quelques-uns des balados qui parlent de nouvelles technologies, dont le tien. As-tu un nom pour ton balado, Canadialogue, là? Mais y a-t-il un nom...
On lui a donné comme titre le podcast canadien traitant des technologies adaptées pour les personnes ayant des limitations
visuelles. Non, non, il faut changer ça, là.
C'est sûr que c'est long, mais on n'a pas vraiment donné de titre okay. En tant que tel.
Bon, en fait, les autres qui ont des titres plus courts parlent beaucoup du Voice Dream Scanner par les temps qui courent. Et j'avais envie d'avoir ton opinion là-dessus parce qu'il y en a un puis un autre.
Oui, bien effectivement, il y a plusieurs applications d'OCR qui sont disponibles sur le marché, donc on pourra en parler. Peut-être avant toute chose, c'est quoi l'OCR?
Oui, en français, est-ce qu'il y a une expression pour OCR?
Oui, bien en anglais, ça vient de Optical Character Recognition, en français, reconnaissance optique des caractères.
Okay.
C'est quoi l'OCR? Dans le fond, c'est la capacité d'un logiciel d'analyser une photo et d'en faire sortir le texte qu'elle contient. Donc, ça permet pour une personne handicapée visuelle de prendre un document papier, de le prendre en photo et ensuite de ça, d'y avoir accès grâce à une conversion qui est effectuée en texte et la possibilité de le lire grâce à une synthèse vocale.
Donc, on n'est plus obligé d'avoir le fameux scanner à côté de notre ordinateur.
Bien, le scanner, à l'époque, c'était de l'OCR,
oui,
justement.
Là, avec les mobiles, avec les téléphones, on n'a plus besoin d'avoir ça, là.
Exactement. Bien, en fait, c'est sûr qu'un scanner, ça peut être pratique pour, par exemple, numériser de gros volumes de documents.
Ouais.
Mais avec le téléphone mobile, l'avantage de ça, c'est que la caméra nous suit directement partout où on va. Et on a la possibilité de numériser du texte dans des endroits un petit peu plus exigus où c'est difficile d'avoir accès avec un scanner. Ou tout simplement, par exemple, numériser le contenu d'une caisse de Pepsi, donc l'emballage d'un Pepsi. Mettre ça sur la vitre du scanner, ça peut facilement craquer la vitre. Mais là, avec le mobile, sachant que la caméra vient au-dessus du texte, on a beaucoup plus de marge de manœuvre avec ça.
Et il y a beaucoup de petits avantages. Je veux dire, c'est fou comment on l'oublie, comment on vivait avant, surtout si on vivait seul et qu'on a, comme moi, là, une cécité complète. Je pense que c'est aussi ton cas, Alexandre.
Oui, c'est mon cas également, effectivement.
Ouais. La semaine dernière, la saison étant ce qu'elle est, je cherchais mes antihistaminiques que j'avais pas nécessairement près de moi depuis plusieurs mois. Et là, tu fais le tour des boîtes, puis avec tes applications, tu trouves la bonne boîte, puis le problème est réglé. Avant, j'aurais dû attendre quelqu'un ou aller embarrasser mon voisin ou en y montrant toutes mes pilules. C'est juste un petit exemple.
Oui, ou non seulement ça, mais on peut même aller encore plus loin que ça, par exemple en utilisant la caméra du téléphone pour Be My Eyes, si on n'est pas capable de s'en sortir avec l'OCR, effectivement, donc la caméra, c'est quand même drôlement utile et pratique.
T'as raison, mais tu vois, Be My Eyes, je sais pas, on dirait que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans mon tiroir de médicaments.
Moi, je l'utilise énormément, Be My Eyes, pour toutes sortes de choses, ne serait-ce que pour identifier du café, ne serait-ce que parce que les cafés, il y a trop de design visuel sur les cafés. Là, je parle entre autres des cafés Nespresso. Ça passe vraiment difficilement à l'OCR. Donc, avec Be My Eyes, c'est très utile. Ou quelque chose qui passe pas à l'OCR, que j'utilise Be My Eyes pour, c'est la lecture des trois chiffres derrière une carte de crédit.
Okay.
Ce que je fais pour être certain que le numéro de la carte de crédit soit pas visible, je l'enroule dans une feuille et je fais juste couper une bande. Je clique où, dans le fond, les trois chiffres apparaissent à l'endo. On peut les sentir tactilement, mais on ne peut pas les lire.
Intéressant, intéressant.
C'est pour ça que je l'utilise, entre autres, beaucoup.
Bon, beaucoup de gens parlent de VoiceDream Scanner. Est-ce que tu es aussi convaincu? Est-ce que ça t'allume? Ou il y en a d'autres qui sont plus performants ou tout aussi performants, mais moins coûteux?
Bon, l'avantage, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Voice Dream Scanner, c'est que l'avantage par rapport à une autre application d'OCR qui est très connue sur le marché, qui est KNFB Reader, c'est son prix qui est quand même beaucoup moindre. KNFB Reader, on parle d'un prix d'environ une centaine de dollars, en fait, qui dépasse les 100 dollars. Voice Dream Reader, Scanner plutôt, pardon, on parle d'un prix quand même inférieur à 10 dollars pour le moment.
C'est ça. Ouais, c'est fou, c'est là. Ça.
Par contre, il y en existe également des applications qui sont gratuites. Est-ce qu'ils font un aussi bon travail? Est-ce que c'est différent? Ben, c'est ce qu'on peut regarder. Entre autres, dans les applications gratuites, on a l'application SignEye de Microsoft, que je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler.
C'est celle-là que j'utilise, moi.
C'est ça. Sign, espace A, espace I pour Artificial Intelligence. Donc, cette application-là permet, entre autres, la possibilité de tout simplement mettre la caméra au-dessus du texte et instantanément, donc en vidéo, ça va nous permettre d'entendre le texte qui est lu. C'est certain que si vous avez de la misère à maintenir la caméra sans bouger, à chaque fois que vous allez bouger, ça va se rafraîchir et la lecture va recommencer.
Donc, les gens avec des problèmes neurologiques, là, c'est peut-être pas idéal.
Oui, effectivement, peut-être de ce côté-là. Par contre, Voice Dream Scanner nécessite la prise d'une photo. Par contre, je dirais que c'est quand même beaucoup plus rapide que KNFB Reader. On pourra en parler un petit peu plus tard. SignEye, par contre, permet également de numériser en mode document, donc en mode prise de photo. Donc, ça nous donne vraiment le temps de bien se placer. Des documents seulement d'une page. Et on peut ensuite de ça les sauvegarder. SignEye, comparativement aussi à Voice Dream Scanner, intègre plusieurs autres options.
C'est ça, c'est donc le petit couteau suisse, là.
Oui, exactement. Entre autres, la possibilité de reconnaître de l'écriture manuscrite en fonction, par contre, de certaines conditions qui doivent être respectées. On a la possibilité de l'utiliser pour la reconnaissance faciale, la numérisation de codes barres, donc sur différents produits. On a la possibilité d'obtenir la description d'une photo et même depuis peu d'explorer celle-ci au toucher. C'est quand même assez intéressant de ce cas-là, de ce côté-là. Ça permet aussi de reconnaître les billets de banque.
Oui, c'est vrai.
Ouais, donc
si la lumière est allumée chez nous, on a cette possibilité-là également.
Oui, le détecteur de lumière et de couleur, exactement.
Bon, parce qu'il nous reste une minute, là. Pourquoi je voudrais payer 12 $?
En fait, je dirais que c'est surtout, par exemple, dans le cas où on a des documents multipages.
Okay.
Du côté de Voice Dream Scanner, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de maintenir la caméra. On a un son, contrairement aux autres applications qui nous indiquent la quantité de texte visible. Et si on arrête de bouger, après quelques secondes, la photo va se prendre automatiquement. KNFB Reader permet de faire la même chose. Par contre, c'est beaucoup plus basé sur la visibilité des quatre côtés de la feuille et c'est beaucoup plus dur de l'avoir de cette façon-là. Par contre, si vous souhaitez lire des documents PDF sous forme d'image, à ce moment-là, peut-être que KNFB Reader pourrait être plus approprié, ou sinon Voice Dream Reader permet également de numériser des documents PDF sous forme d'image.
Reste là, Alexandre, je te reviens après la pause.
Certainement.
Écoutez, accès libre.
Pour ceux qui nous écoutaient via le balado, vous n'avez rien vu, mais pour les autres, vous avez attendu la petite pause de 2 minutes. Alors, je rappelle que vous êtes à Accès Libre, que Jean-Sébastien Laliberté est à la technique, que c'est Christiane Campagna qui est Eddy Mest et qui aujourd'hui laisse sa place à Alexandre parce que j'avais envie avec lui de chicaner un petit peu la presse. Alexandre Bellemare qui est de Canadialogue, avec qui on causait de différentes applications sur les téléphones mobiles pour scanner et surtout... profiter du caractère qu'on peut pas lire si on est aveugle. Alexandre, peut-être juste dire quand même qu'on a autant du côté de iOS que d'Android, les applications sont disponibles. Ce ne sont pas les mêmes nécessairement. Elles sont pas aussi performantes, mais il y en a pour tout le monde, là.
Oui, ben j'ai vu l'application sous iOS et sous iOS, il faut même spécifier qu'il y a deux types d'applications. Il y a l'application mobile, donc sur iPhone, et la version iPad qui est totalement différente.
Ah, okay.
J'ai pas vu par contre la version sur Android, pour être bien honnête, pour l'instant.
Non, mais il y a quelque chose comme End Vision, je pense, sur Android. Où il y a différentes applications qui permettent de scanner, là.
Ah, oh, de scanner,
oui.
Excusez-moi, je pensais qu'on était rendu à l'application de la presse.
Non, je voulais juste finir.
Oui, c'est certainement sur Android, effectivement, il existe plusieurs applications d'OCR. Ben, entre autres, KNFB est disponible sur Android. Il y en a plusieurs autres également qui sont disponibles, comme Office Lens.
Ouais. OK, pour ce qui est de la presse maintenant, moi, j'ai commencé. Moi, contrairement à toi, j'utilise LP Mobile 4 à 5 fois par jour. Tu me disais que dans ton entourage, plusieurs personnes qui ont des handicaps visuels la boudent. Elle n'était pas idéale, c'est certain, mais je la trouvais quand même assez utile pour être informé. Mais là, samedi, on m'invitait à mettre à jour l'application. Et là, je me suis dit, oh boy, si je la mets à jour, est-ce que je vais bénéficier ou au contraire subir? Et j'ai attendu quelques heures. Finalement, j'ai décidé de la télécharger et j'ai subi. Et c'est pas la seule application qui nous impose un retour en arrière. Parle-moi un peu là, de cette nouvelle mouture de la presse. Ça n'a pas été facile.
Certainement. Ben, en fait, ce qui dérangeait déjà à la base avec LP Mobile, c'est que souvent, un article était présenté dans un gros bloc et il n'y avait pas façon de naviguer facilement dans l'article.
Ligne par ligne,
Oui, c'est ça exactement. Puis c'est pour ça que nous autres, LP Mobile, on l'aimait plus ou moins et on s'informe majoritairement par Facebook pour l'actualité. Maintenant, au niveau de la nouvelle mouture, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont non labellisés. Et comment est-ce que c'est basé? C'est basé, en fait, pour être beau visuellement, pour avoir l'impression de tourner les pages d'un journal. C'est principalement basé là-dessus. Et comment est-ce que c'est fait? Par exemple, lorsqu'on ouvre le premier écran, le bienvenue à la presse, il n'y a pas vraiment de façon de s'en sortir avec VoiceOver à part faire glisser trois doigts vers la gauche, comme si on tournait une page ou comme si on allait à la page suivante d'application sur l'écran d'accueil.
Et ça, il faut le savoir, parce que normalement, VoiceOver va te dire « taper deux fois pour... » Donc, on va te dire quoi faire, alors que là, il n'y a aucune indication. Si tu ne me l'avais pas dit en fin de semaine, je ne l'aurais pas su.
Bien, en fait, c'est que visuellement, c'est intuitif. On tasse la page dans l'écran comme si on feuilletait la page d'un journal.
Mon instinct visuel est...
Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que c'est comme une des premières affaires que j'ai essayé parce que sur iPad, avec la Presse Plus, c'est basé, mais la Presse Plus, c'est encore moins accessible que cette nouvelle mise à jour-là. Faut se le dire. Et c'est pour ça que je l'ai essayé. Lorsqu'on ouvre un article dans la nouvelle mouture de l'application La Presse Mobile, autrement dit, c'est même pas toujours le premier article de la liste qu'on a vu préalablement qui va s'ouvrir. Des fois, ça va être le troisième, dans le fond, si on ouvre le quatrième article, par exemple, de la liste, le premier article de la liste qu'on a vu pourrait s'ouvrir.
C'est ce que j'ai remarqué.
Oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il faut encore une fois feuilleter les pages, comme les pages d'un journal, jusqu'à temps de repérer l'article qu'on veut. Et en plus de ça, lorsqu'on lit des articles, on se retrouve face à des publicités très dérangeantes qu'on peut tenter d'essayer de sauter en faisant glisser trois doigts vers le haut, ce qui permet de faire défiler le texte vers le bas. Et quand on souhaite sortir de là, le bouton de retour...
Des publicités en plein milieu des articles, ce qu'on n'avait pas avant.
Exactement, oui, mais parce que la presse, dans le fond, se finance maintenant à l'aide de la publicité.
C'est ça.
Et voilà, c'est ça. Et quand on veut sortir d'un article, on n'a pas le choix de désactiver VoiceOver, de toucher l'écran environ vis-à-vis, juste en dessous de la barre de notification, donc la barre d'état. Pourquoi? Parce que le bouton de retour n'est pas accessible, donc c'est souvent de laisser erreur.
Parce que ça aussi, je ne l'ai pas trouvé, le revenir en arrière.
En fait, ça, je m'y mets dans la conversation. Ils l'ont enlevé, le bouton de retour, même pour un voyant. La façon de sortir d'un article, quand on rentre dans l'article, ça ouvre une petite fenêtre, on peut défiler le texte. Quand on veut sortir, il faut retourner en haut de l'article et après ça, faire glisser vers le bas. Ils ont enlevé le petit X ou l'option reculer, l'option quitter. Donc ça, c'est pas très intuitif non plus, aveugle ou non.
OK.
Exactement, c'est pour ça que je le fais sans voice-over. Exactement.
Eh là là. En tout cas, moi, à un moment donné, j'ai dit quelques mots qui ne se disent pas à la radio. Puis là, j'ai décidé d'utiliser Radio-Canada jusqu'à ce que je puisse parler à quelqu'un de la presse. Puis, parce que c'est ce qu'on suggère, là, toi et moi. On souhaite que les gens appellent puis leur disent « Hey, en 2019, vous voulez que tous puissent avoir accès à l'information, mais ce n'est pas le cas du tout. »
Exactement. Je l'ai déjà fait, par contre, cet été pour la version iPad et j'avais eu une fin de non-recevoir. Oui. Au niveau de la mise à jour, je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps.
Vas-y pour une minute. Après ça, je vais chicaner. Okay. Ben, je ne vais pas chicaner, mais je vais donner ce mandat-là à Claude Guy de la COFAN.
All right.
Claude Guimont, désolé.
Il n'y a pas de problème. C'est certain qu'on peut, pour l'instant, éviter de faire la mise à jour. Si vos mises à jour automatiques sont activées, il y a une façon de désactiver celle-ci en se rendant dans vos réglages, en se rendant sous votre nom dans iTunes Store et App Store et en désactivant l'option « Mise à jour automatique ». Par contre, même si vous décidez de ne pas faire la mise à jour de l'application, quand la presse va décider qu'ils en ont assez de supporter l'ancienne version, ça peut être dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, ils vont la bloquer, ils vont vous forcer de toutes les façons à faire la mise à jour. Vous allez juste avoir un beau message au milieu de l'écran vous disant que l'application a expiré.
Donc, vous allez réagir, c'est une question de temps, là. Ouais.
C'est ça. Et quand vous faites la mise à jour, il n'y a pas vraiment de façon simple de revenir derrière.
Et là, merci beaucoup, Alexandre Bellemare.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Claude Guimont, c'est un dossier pour vous, ça.
Tout à fait.
Ouais,
je suis vraiment, vraiment choqué d'entendre ça ce matin. Je ne savais pas.
C'est... En tout cas. Mais vous... là, j'ai envie de parler de taxi avec vous. Là, parce que, Claude est directeur de la Confédération des organismes de personnes handicapées. Vous étiez, vous et des collègues, à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour présenter un mémoire et votre opinion sur le projet de loi 17. Et quand je dis votre opinion, c'est évidemment des organismes qui sont membres de la COFAN. Mais une des questions que je me pose, Claude...
Oui.
Je vais avoir la nounou, là, mais... Les contrats restent encore. C'est-à-dire que la STM a encore la responsabilité d'offrir du transport adapté. Et ils viennent de signer, dans la dernière année, des ententes avec plusieurs compagnies de taxi. Donc, la loi 17 ne devrait rien changer à ce niveau-là. Pourquoi les gens sont si inquiets?
Bien, vous avez raison, M. Fortin.
Tu peux m'appeler Luc.
Oui, OK. Oui, d'accord, Luc. Excuse-moi.
Pas de problème.
c'est certain que les contrats présentement signés demeurent. Ceci dit, par contre... ils ont tous des clauses où la réalité des choses peut faire qu'il y ait certaines incompréhensions par rapport au contrat en transport adapté. On parle de transport adapté, mais il y a aussi tout l'aspect du taxi privé.
Ouais, ouais.
Nous, c'est là-dessus
qu'on
avait...
Oui, on veut que ça change.
Oui, ouais. on veut que le projet de loi 17 nous entende les personnes avec des limitations fonctionnelles qui, soit dit en passant, ont été carrément oubliées dans le projet de loi 17. Mm-hmm. Ça, c'était carrément inacceptable. Puis, juste d'entrée de jeu pour vos auditeurs, vos auditrices, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, mais à Montréal, parlons de Montréal, 85% du transport adapté quotidiennement est fait par l'industrie du taxi actuelle.
Ouais.
Donc, c'est vraiment considérable. Puis à la moyenne du Québec, c'est 70%. Donc, c'est considérable. Puis, quand on étudie le projet de loi en profondeur, il y a certaines choses là, qui peuvent qui nous interpellent et qui sont vraiment à réfléchir pour la suite des choses.
Comme
la tarification modulée, tout simplement, ce qui est le cœur de Uber, ce qui est le cœur de Lyft, ce qui est le cœur du prochain projet de loi qui est sur la table présentement. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver si tous les chauffeurs du taxi décident d'aller travailler sur les heures de pointe. Donc, ils vont aller où ce que c'est le plus payant. Donc, les personnes ayant des limitations...
ils vont avoir moins de disponibilité pour le TA.
Ils vont avoir moins
là.
De disponibilité.
Ouais,
ouais. Ça va être plus dispendieux. Donc, aura-t-on les moyens de payer la différence? On peut en douter. Donc, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. dans nos consultations, tu nous as parlé tantôt d'entrée de jeu avec les membres de la COFAN intéressés. Tout ce qui est de la formation des taxis n'est presque pas considéré dans le projet de loi. Okay. On parle d'enquête juridique pour les chauffeurs, mais nous, on veut que ça aille plus loin sur comment accompagner une personne avec des limitations. Dans notre mémoire aussi, on a parlé beaucoup de déficience intellectuelle. C'est une autre manière d'accompagner les personnes aussi. Les aides à la mobilité. Comment on s'organise là pour... parce que ce sont souvent des aides là, qui sont assez dispendieuses. Donc, comment on s'organise pour travailler avec tout ça? Puis, tantôt, on parlait de l'application de la Presse Plus. Mm-hmm. Il y a tout l'aspect accessibilité aussi qui est à prévoir dans le projet de loi. Les applications, elles seront-elles accessibles? Les sites Internet seront-ils accessibles? On peut en douter. Nous, c'est ce qu'on a fait remarquer au ministre et aux membres de la commission parlementaire la semaine passée. Prenez ça en considération, mes chers amis, parce que c'est important pour notre monde. Comment ça va? Puis on sait qu'on s'en va, on n'est pas contre la modernisation, on s'en va vers les applications et tout. Bien, ça prend des téléphones qui sont dernier cri.
Est-ce que
ça prend des données?
Puis tant qu'à faire, l'inventaire et la mise à jour de toute cette industrie-là, je présume que des véhicules accessibles, d'en avoir plus sur les routes, ça fait partie de vos demandes?
Oui, tout à fait. D'avoir plus, être capable de suffire à la demande, puis s'assurer aussi pour que ça soit intéressant pour un chauffeur de taxi de faire modifier son automobile, son véhicule.
Ouais.
Oui, il y a des subventions, on en veut encore, mais il faut s'assurer pour que la personne, le chauffeur qui décidera de faire du transport pour du transport adapté, est un supplément financier pour que ce soit alléchant pour lui. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est ce qu'on a demandé. Nous, au début, vers le 20 mars, quand le projet de loi a été déposé, on était vraiment inquiets, Il y avait... pas le mot « personne handicapée » du projet de loi. Il n'y avait pas de transport adapté. On ne parlait pas d'accessibilité. La COFAN, qui est toujours invitée aux commissions parlementaires, n'avait pas été invitée à la commission parlementaire. Donc, il a fallu vraiment travailler fort pour y arriver. Finalement, on a réussi. On a été invités. Puis en plus, on a...
Puis la RUTAC était là la veille.
Oui, il y a eu plusieurs groupes là, qui étaient là la veille. Puis nous, ce qu'on demande principalement, puis ce qu'on a demandé au ministre Bonnardel, ce qu'on a demandé aux membres de la commission, c'est que pour la suite des choses, on sait bien que le projet de loi il va être adopté, mais pour la suite des choses, il y a tout l'aspect réglementaire. Donc, ce qu'on veut, c'est être partie prenante de l'élaboration des règlements pour s'assurer que nos demandes, puis la réalité du transport adapté, la réalité du transport privé par taxi pour les personnes qu'on leur représente soit prise en considération.
Oui, puis le projet de loi peut être adopté, ça c'est une chose, mais il doit être mis en plan une fois que toutes les ficelles sont attachées, là, qu'on ne fasse pas comme le train de l'Est où on l'a ouvert avec trois gares accessibles sur 15, puis là, nous, on ne peut pas prendre... Parce que là, c'est de sortir de chez soi, là. Je veux dire,
oui.
si la loi est acceptée et là on dit OK, on commence en octobre et éventuellement les applications vont être accessibles, je fais quoi moi entre octobre éventuellement là?
C'est exactement. Il y a un sentiment d'urgence.
Oui, oui.
Puis je dois dire, faut être honnête, là, quand on négocie avec un gouvernement et avec un ministère, et on sent qu'il y a une ouverture de la part du ministère. Puis
quelles questions vous a-t-on posées? Est-ce que moi j'ai jamais déposé un mémoire? Est-ce qu'ils ont le droit de poser des questions pendant que vous livrez votre contenu?
Oui, bien tout à fait. Une audition, c'est 60 minutes. Nous avons 10 minutes au début pour faire la présentation. Et après ça, les membres de la commission avaient eu notre mémoire la veille.
Mm-hmm.
Donc, il y avait beaucoup de questions, d'éclaircissements à poser sur notre mémoire. Et finalement, les 50 dernières minutes se sont déroulées dans un climat de discussion très constructive.
Okay.
Puis on a eu droit là, de pouvoir éclaircir certains aspects, mais aussi là, de leur faire constater aux membres de tous les partis qu'il y avait un manque dans le projet de loi et qu'il fallait absolument s'asseoir à régler pour répondre, comme tu viens de le mentionner, à l'urgence de nos personnes.
Et c'est ça, c'est qu'à la fois, il faut s'assurer que ce que l'on a actuellement demeure, mais en même temps, tant qu'à faire une mise à jour, aussi bien améliorer la situation. Profitons-en pour, comme on le disait, améliorer et augmenter le nombre de véhicules accessibles, peut-être même augmenter le nombre d'heures disponibles dans certaines régions. C'est fou, là. Il y en a qui n'ont pas de service le soir, il y en a qui n'ont pas de service le dimanche. Il y a des choses à améliorer et peut-être qu'on peut regarder tout ça en même temps.
Ben, tout à fait. C'est ce que nous avons demandé au ministère, au ministre, et nous avons déjà eu l'occasion de commencer à en discuter avec le bureau du ministre.
Ouais. Par hasard, bon, je sais que tu es occupé, là, mais as-tu vu le documentaire à mobilité réduite?
Non, pas
encore. C'est sur YouTube.
Oui.
C'est à Québec qu'on s'est promené avec la caméra de François Routier, et on va lui parler tout de suite après Laurence Nerbonne. Merci Claude Guimond.
Ça fait plaisir, à la prochaine.
Salutations, François Routier.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Vous êtes professeur au département de réadaptation de l'Université Laval et également chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale. Je présume que vous êtes le grand Manitou derrière à mobilité réduite?
Je suis une des personnes à l'arrière de ce documentaire, oui.
Le public cible de ce documentaire-là que j'ai écouté en fait jeudi, là, vers la fin de la semaine?
Okay. Le public cible, en fait, le premier public cible, c'est, je dirais, la population en général, le grand public. Le but étant de sensibiliser la population à la réalité de personnes à mobilité réduite et, dans le présent cas, principalement celles qui utilisent des aides à la mobilité.
C'est plus le public en général que, disons, les élus, ou c'était pas nécessairement pensé avec les élus en tête directement?
A priori, non. Toutefois, dans nos discussions à travers le temps, c'est ressorti. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il est disponible sur YouTube. Les gens, les organismes qui ont à défendre des droits, s'ils peuvent l'utiliser pour sensibiliser les élus, les politiciens, ben tant mieux. Mais c'est au-delà de la du but initial, puis c'est au-delà de ce que nous, on peut ou on doit faire comme chercheurs.
Oui, et même si c'est fait dans le cadre des rues de Québec, je veux dire, c'est une réalité que tous nous constatons, chacun dans nos villes respectives. Là. Donc, c'est très, très, très facile d'utiliser ce documentaire-là.
Tout à fait. Donc, c'est propice au contexte québécois facilement.
Ouais. Il y avait un peu d'hiver, un peu de saison sèche. Vous avez travaillé combien de temps là-dessus?
Pratiquement un an, oui.
C'était le but, j'imagine, parce que j'ai eu peur à un moment donné qu'on évite la neige alors que c'est un enjeu, là.
Non. En fait, quand on a commencé nos travaux l'année dernière, là, à la fin de l'été, c'était intentionnel de dire qu'on devait filmer également pendant l'hiver.
Le lancement avait lieu la semaine dernière à Québec. Je suis curieux de savoir comment ça a été reçu, pas nécessairement par les organismes, parce que je suis certain que tout le monde était content, mais est-ce que vous savez si des gens qui étaient peut-être pas familiers avec la situation étaient là, puis ont fait un « ah oui, hein? »
Je vous dirais oui. On a eu des réactions comme celle-là. On avait aussi des gens à mobilité réduite qui ont fait part de certains commentaires allant de « oui, c'est notre réalité » à « il manque certaines choses, c'est pas tout à fait ça, pas tout à fait la mienne ». Et c'est correct. Le but du documentaire est que les gens en parlent de cette réalité-là. Qu'ils en parlent en bien ou en mal, mais qu'ils en parlent, c'est ça qui est important.
Bon, ben justement, comment avez-vous choisi les situations démontrées?
Ce documentaire-là découle d'un projet de recherche qu'on a réalisé là, au cours d'à peu près des trois dernières années, où on a évalué, je dirais, la mobilité des gens qui utilisent une aide à la mobilité dans la ville. Donc, on a eu 40 participants à Québec. Et suite à ça, ben, ça a été le moyen de diffuser nos résultats. C'est bien sûr qu'on s'est retourné vers nos participants les plus loquaces, les plus jasants, les plus expressifs, qui avaient peut-être le plus de choses à dire. Aussi, ben, dans nos résultats de recherche, il est sorti des thématiques plus importantes. Et c'est à travers les gens et à travers ce qu'on avait obtenu dans le projet de recherche qu'on a déterminé ces thématiques-là dans le documentaire.
Ouais. Ce qui est agréable dans ce documentaire-là également, c'est que vous avez parlé d'endroits que peut-être les propriétaires ou les gérants de ces endroits-là croyaient accessibles et vous leur avez montré « Non, Charlie, c'est pas accessible. Regarde, là, ça, c'est trop à pic. Ça, je trouve ça bien. »
Ça fait partie des beaux côtés de ce qu'on a réussi à faire, effectivement.
Ouais. Le petit bémol, et je ne sais pas si vous prévoyez, moi qui suis aveugle total, ça a été difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de comme ça, de par là, de tu vois-tu comment c'est fait. Est-ce que vous avez envisagé faire de la vidéodescription ou peut-être même un sous-titrage pour les personnes sourdes éventuellement?
C'est une très bonne question que vous posez là. On s'est posé la question en cours de route. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? On est des chercheurs en réadaptation, en intégration sociale. On est un institut de réadaptation dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un souhait qu'on veut faire. C'est une question de budget. Le documentaire était destiné à la population en général. Oui, les personnes aveugles
font partie de la population générale.
La population générale. c'est un documentaire qu'on a réalisé avec du sociofinancement en partie. On n'a pas été capable de se rendre là. On a des intentions. Est-ce qu'on fait de ce genre d'adaptation-là? Est-ce qu'on produit un autre documentaire sur des solutions maintenant.
Ouais, ouais, ouais.
Là, c'est, ah, ça, c'est une tout idée, un ça. Dilemme.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, dans la production, dans vos déplacements? Vous le saviez comme chercheur, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que... Ah oui, c'est bien trop vrai.
En fait, moi, ce qui me de ce documentaire-là, là, de, ce que j'apprécie le plus, c'est que l'accessibilité, puis lorsqu'on parle avec les gens de la ville et même la population en général, ben l'accessibilité, c'est les endroits publics où tout le monde va. Là, je vais parler de Québec. Ben, c'est la Grande Allée, c'est le Vieux-Québec, c'est les endroits que tout le monde connaît. Mais les gens qui participent au documentaire nous ont amenés dans leur quartier, dans leur rue à eux et à elles, où on va pas tout le temps, et c'est là que c'est pas très accessible, mais et c'est là que le commun des mortels doit aller au dépanneur, et c'est pas sur la Grande Allée. Là.
Ouais.
Donc, c'est ce côté-là, je sais pas si je peux dire que ça m'a surpris, mais c'est ce que j'aime beaucoup de cette vidéo-là, de faire comprendre aux gens que l'accessibilité, ben, c'est partout, et que ces gens-là vont au dépanneur, vont voir leurs amis qui est à côté, et c'est ça qui doit être accessible.
En terminant, vous êtes concentré surtout ou uniquement sur les extérieurs? Est-ce que ça vous tente de faire de l'intérieur éventuellement?
Ben, l'intérieur pose un problème de convaincre les gens.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, la réponse est on le souhaite, ouais. Mais il y a une difficulté énorme.
À mobilité réduite, disponible sur YouTube. J'en discutais avec François Routier. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Ça fait plaisir. Monsieur Laliberté?
Oui.
C'est férié lundi prochain?
Ben oui.
Mais on aura quand même quelque chose à offrir aux gens.
On va faire de la magie.
Ce qu'on va d'ailleurs, sur lequel on va travailler dans quelques minutes. Est-ce que vous dînez avant ou après notre férié?
Oh, quelle question indiscrète, Luc.
Mais il vous reste 10 secondes pour y penser. Puis après ça, ben, on décidera si on mange ou si on retravaille sur Accès Libre qui sera là lundi prochain. Salut tout le monde!